Oui, je crois que je vais commencer. D'abord, je voudrais remercier tous ceux qui ont la gentillesse de venir aujourd'hui, parce que ce n'est pas complètement évident quand on voit le site du Collège de France. Donc, merci beaucoup de votre présence. Cette année, et en fait, ça va continuer sans doute une autre année, le sujet de mes cours va être autour des systèmes désordonnés, qui est un très grand sujet de la physique statistique et en fait qui déborde largement le cadre de la physique statistique et parce qu'il s'occupe, en fait, il apparaît dans beaucoup de systèmes physiques et aussi il a de très nombreuses applications en dehors de la physique. Donc, parmi les problèmes physiques qui relèvent de la théorie des systèmes désordonnés, il y a les verres, les supraconducteurs avec des impuretés, les parois de domaine, les conducteurs, etc. Enfin, il y a une très, très grande liste et on verra un certain nombre d'exemples. Et puis, il y a des applications. D'abord, ça soulève des problèmes de mathématiques importants. Donc, il y a beaucoup de travaux mathématiques et probabilistes qui sont consacrés à ce sujet. Ça a des applications en biologie. Beaucoup de problèmes aussi d'optimisation peuvent se formuler comme des problèmes de physique statistique des systèmes désordonnés, des problèmes de sociologie, d'intelligence artificielle, etc. Donc, c'est un sujet très, très vaste. Et évidemment, je ne vais pas traiter tout, mais certains aspects qui me paraissent importants. Et cette année, ça va être, en gros, les bases de ce sujet. Donc, de quoi s'agit-il? Au départ, eh bien, il s'agit de... On s'intéresse à des systèmes en présence d'impuretés, où on dit de désordre. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un système avec impureté? Eh bien, pour l'illustrer, je vais prendre trois exemples. Mais bien sûr, on pourrait en faire une liste extrêmement longue. Et donc, les trois exemples dont je vais vous parler, c'est un exemple de magnétisme, un exemple de transport, c'est-à-dire de conducteur. Et puis, le troisième exemple, ça va être plutôt relié à la biologie, c'est-à-dire des problèmes de protéines. Mais il y a bien d'autres problèmes de biologie qui font partie de la théorie des systèmes désordonnés, comme les réseaux de neurones, les modèles d'évolution des espèces, etc. Donc, les trois exemples dont je vais parler, c'est le premier exemple. Donc, quand même, la première partie, c'est trois exemples. Et donc, c'est sans doute le premier exemple. C'est un problème de magnétisme qui est sans doute celui dont on parle en premier quand on s'intéresse à la théorie des systèmes désordonnés. Donc, de quoi s'agit-il? Eh bien, on considère un alliage. Et en fait, un alliage, par exemple, entre deux types d'atomes métalliques, et les uns portent des spins, sont magnétiques, et les autres ne le sont pas. Donc, typiquement, on a des alliages, par exemple, d'or et de fer. Donc, fer, c'est l'atome magnétique. L'or n'est pas atome magnétique. Ou de manganèse et de cuivre. Et la raison pour laquelle il y a ces paires, c'est que c'est des atomes qui, essentiellement, ont la même taille. Et donc, quand on fabrique l'alliage, eh bien, les atomes se mettent à des positions aléatoires. Et donc, on va se retrouver avec un réseau où certains atomes vont être magnétiques et d'autres ne le sont pas. Et les positions des atomes magnétiques et non magnétiques vont être aléatoires. Elle va dépendre, enfin, quand on aura refroidi le liquide, eh bien, ils vont se positionner plus ou moins au hasard dans le métal, dans l'alliage. Donc, ce qu'on dit, c'est que la position des atomes est gelée. Une fois qu'on a refroidi le système, d'une certaine manière, les atomes d'un type ne bougent plus, restent à leur position. Mais malgré tout, les spins de ces atomes, eux, peuvent réagir quand on change le champ magnétique, on va changer la température. Et donc, on a un problème où il y a deux types de variables. Les positions des atomes sont des variables qu'on dit gelées. Et puis, les spins des atomes qui sont des variables dynamiques qui sont en train de bouger. Donc ça, c'est un premier exemple de système magnétique. Et si on veut le décrire, un modèle qui va décrire ce genre de système, donc les spins dynamiques, ils vont être sujets à l'agitation thermique. Ils vont pouvoir se retourner. Et donc, si on veut modéliser ce genre de système, j'écris une énergie comme un exemple, on peut prendre des énergies plus compliquées, mais juste pour illustrer ce genre de problème, on va dire qu'on a une énergie entre les voisins sur le réseau, et il va y avoir des variables ni qui vont me dire ni égale 1, ni égale 1, c'est un atome magnétique, 0, c'est non magnétique, si vous voulez. Donc cette variable ni, d'une certaine manière, m'exprime la position des atomes magnétiques, et puis les spins qui vont derrière, il y aura des spins associés au site I et au site J. Bon. Alors, tel que c'est écrit, c'est un tout petit peu abusif, parce que sous cette forme, on a l'impression qu'on a mis même des spins aux endroits où il n'y a pas d'atomes magnétiques, mais comme on multiplie par zéro, ça n'a pas beaucoup d'importance. Bon, donc ça, c'est un premier exemple. Et donc, il y a ces deux types de variables qui interviennent, et les unes ne bougent pas, alors que les autres, au contraire, vont beaucoup bouger sous l'effet en particulier de l'agitation thermique, et donc vont pouvoir s'équilibrer. Donc, c'est un premier exemple. Le deuxième exemple, qui est en soi un sujet extrêmement important dans la théorie des systèmes désordonnés, c'est le problème de transport. En fait, on pourrait... il y a des centaines, peut-être des milliers d'articles sur ce sujet. C'est le problème de transport. Et là, je prends un exemple de transport quantique. C'est ce qu'on appelle le problème de la localisation, dont je vais reparler plus en détail dans les cours de cette année, pas aujourd'hui ni la prochaine fois, mais plus tard. Donc, de quoi s'agit-il? Eh bien, vous savez que quand on considère un électron dans un métal, essentiellement, cet électron dans un métal pur, eh bien, cet électron, il voit un potentiel que je dessine comme ça, qui va être périodique, en fonction de la position, un potentiel qui est périodique, qui est dû, pas forcément une sinusoïde, hein, qui est dû à la position des ions. Dans un métal parfait, les ions seraient rangés de manière régulière, et donc le potentiel créé sur un électron par les ions est un potentiel périodique. Et donc le problème du transport quantique, c'est de regarder une équation de Schrödinger. Par exemple, si vous prenez l'équation de Schrödinger indépendante du temps, eh bien, vous êtes censé trouver pour un électron la solution. Alors, j'ai créé une dimension. Les fonctions d'onde vont être solution de l'équation de Schrödinger. Ici, c'est l'équation indépendante du temps. Alors, on reviendra dessus. Ça, c'est le système pur, un réseau régulier. Et c'est un sujet qui est très bien étudié et compris. Et la version désordonnée, c'est que il va y avoir des impuretés dans ce système, et donc, en plus, éventuellement, de ce potentiel périodique, eh bien, les impuretés vont modifier le potentiel. Et donc, on s'attend à un potentiel qui va être modifié. Donc, voilà, un potentiel qui va éventuellement avoir une composante périodique, mais en plus, il va avoir quelque chose d'aléatoire. Et donc, le problème, qui est un problème de... à la fois de physique, mais aussi de mathématiques, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut dire sur les solutions de cette équation de Schrödinger quand le potentiel est aléatoire. Alors après, quel type d'aléatoire on met, mais on en discutera un petit peu. Par exemple, on pourrait dire que le potentiel est de la forme somme de un potentiel U de X moins X alpha. J'ai créé une dimension, mais enfin, où alpha, ce sont les positions aléatoires des impuretés. Il y a des impuretés à quelques endroits dans le métal, et il va y avoir une certaine densité d'impuretés dans le métal, et qui vont se retrouver à des positions x alpha, plus ou moins choisies au hasard dans le métal. Et on s'intéresse à ces propriétés. Donc, est-ce que le système va conduire le courant, quelles vont être les propriétés de ça? Et donc, ça, c'est un sujet sur lequel on va s'étendre un peu. Alors, troisième exemple que je voulais aborder, bon, rapidement, encore une fois, il y a beaucoup d'exemples possibles. Ah oui. C'est un exemple tiré de la biologie. C'est les protéines. Dans le cas du transport quantique, les variables gelées, évidemment, c'est la position des impuretés ou c'est la forme de ce potentiel. Et la variable dynamique, ça va être la position de l'électron qui va évoluer dans ce potentiel aléatoire. Donc le potentiel est figé, mais l'électron peut circuler. Donc, l'électron, c'est la variable dynamique et le potentiel est la variable gelée. Alors, en fait, ici, on parle de transport quantique, mais en fait, si on s'intéresse à n'importe quel problème d'onde en milieu aléatoire, c'est essentiellement des équations de ce type qu'on va regarder. Il n'y a pas besoin de regarder un problème quantique. N'importe quel problème d'onde risque de se poser un peu de cette manière. Alors, le troisième exemple, c'est les protéines. Les protéines, ce sont des polymères, des longues molécules linéaires, mais ces polymères, en fait, c'est une suite d'acides aminés qui sont attachés les uns aux autres, et donc la séquence de la protéine, la séquence d'acides aminés, elle, est fixée. Donc, c'est une suite d'acides aminés qui ne sont pas tous les mêmes, qui vont varier, qui vont dépendre, bien sûr, de la protéine étudiée. Et maintenant, par contre, la forme de la protéine, elle, va être la variable dynamique. Donc, si on veut associer à ce genre de système une énergie, on va écrire somme de Vij, Ri, si on veut faire un modèle, Ri moins Rj, où Vij, ça va être le potentiel d'interaction entre l'acide aminé qui se trouve à la position I, l'acide aminé qui se trouve à la position J, et puis Ri et Rj, ce sont leurs positions. Donc, quand je parle de position, il y a la position le long de la chaîne. Hein, donc, j'ai les acides aminés qui vont de 1 à, disons, grand N. Et puis, il y a leur position géométrique, Ri. Et donc, comme la molécule, elle reste fixée, eh bien, le potentiel Vij, c'est la variable gelée. Par contre, les Ri, les positions des atomes vont fluctuer parce que la protéine se trouve en solution et tout ça va dépendre de la température. Donc ça, c'est trois exemples de systèmes désordonnés. Et dans chaque cas, on a deux types de variables. Ici, ça va être les positions qui vont fluctuer, qui vont être les variables dynamiques. Et là, et les Vij, qui est le potentiel, va être les variables gelées. Ça, c'est vraiment un problème de système désordonné. Et alors, ce qui intéresse les gens dans le cas des protéines, c'est de savoir à quelle température ou dans quelles conditions la protéine va se replier, sous quelle forme, et c'est la forme sous laquelle elle se replie est responsable de ses propriétés biologiques. Donc, ça, c'est un sujet qui est à la fois dans les systèmes désordonnés et intéressant pour les biologistes. Alors, en fait, pour résumer tout ça, quand on s'intéresse à un système désordonné à l'équilibre, donc il y a l'aspect équilibre et il peut y avoir l'aspect dynamique aussi, mais si on s'intéresse à l'équilibre, alors ce qu'on a en tête, c'est un système qui, en fait, on a en tête de travailler sur une certaine échelle de temps T qui est beaucoup plus grande qu'un temps que j'appelle T court et beaucoup plus petit qu'un temps T long. Et donc, si je reprends l'exemple de mon alliage de départ, je vous ai dit, il y a des atomes qui sont magnétiques et d'autres qui ne le sont pas. Alors, on imagine, quand on s'intéresse aux propriétés d'équilibre de cet alliage, on s'intéresse à des temps sur lesquels les spins ont eu le temps beaucoup de se retourner, donc de s'équilibrer. Donc ça, c'est l'équilibrage des spins. Et ça, c'est le temps caractéristique sur lequel les atomes vont se mettre à bouger. Donc les atomes magnétiques, on ne va pas les pouvoir entièrement empêcher les atomes magnétiques et les atomes non magnétiques de bouger à l'intérieur du réseau. Ça va être des temps beaucoup plus longs. Et donc, il y a un temps caractéristique de mouvement des atomes. Et donc, d'une certaine manière, certaines variables sont complètement figées. Le potentiel V de X, ici, la séquence la séquence d'acides aminés. Et puis d'autres variables, au contraire, ont tout le temps pour explorer leur espace des phases et pour s'équilibrer. Et là, c'est la forme de la protéine. Là-bas, c'est l'électron qui va circuler dans ce métal. Ou au départ, dans le cas des alliages, c'est les spins. Donc voilà un peu l'idée qu'il y a derrière ces systèmes désordonnés. Et maintenant, la chose qu'on voudrait vraiment, c'est connaître les propriétés caractéristiques d'un de ces systèmes désordonnés, les propriétés typiques. Quand je vous donne un morceau de fer, vous n'avez pas envie qu'on vous dise où se trouve chacun des atomes magnétiques pour l'étudier et puis refaire une étude chaque fois qu'il y a des positions différentes d'atomes magnétiques dans le système. Donc ce qu'on voudrait, c'est connaître l'échantillon typique. Je reprends l'exemple de mon système, mon alliage de tout à l'heure. Donc je reprends mon alliage, je redessinais là, et on avait une énergie qui valait moins somme de Ni, un couplage, sont Ni, Nj, Si et J, et les Ni étaient les variables gelées. On me disait que c'était des variables qui valaient 0 ou 1 pour me dire si l'atome était magnétique ou pas, et puis ça, c'est les variables dynamiques. Et donc, comme je viens de le dire à l'instant, les variables dynamiques, si je suis à l'équilibre, elles ont le temps d'explorer leur espace des phases, donc je peux leur appliquer les lois de la physique statistique d'équilibre. Donc à une température donnée, on va avoir la fonction de partition qui va dépendre de toutes les variables d'occupation, et puis ça va être somme sur toutes les configurations du système de E puissance moins E de C sur T. Bon, normalement, on met la constante de Boltzmann. Je vais mettre la constante de Boltzmann égale à 1, d'habitude. C, c'est la configuration des spins. Donc, les spins, ça, décrire ça, c'est simplement dire les spins se mettent en équilibre à la température T. Et évidemment, pour un échantillon donné, le Z va dépendre de la position de tous les atomes magnétiques. Mais on se dit bien physiquement que si on a des grands systèmes, en fait, tous les systèmes vont se ressembler essentiellement. Donc on se dit que probablement, ce n'est pas la peine d'essayer de s'interroger sur comment ça dépend précisément de tous ces N. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc la plupart des échantillons se ressemblent et on voudrait connaître les propriétés de l'échantillon typique. Quand je dis que les variables gelées qui valent 0 ou 1, dans un modèle, on peut considérer que c'est des variables indépendantes, occupées 0 ou 1, bon, il y aura de temps en temps un échantillon très rare où tous les atomes magnétiques seraient ici et puis les atomes non magnétiques seraient ailleurs. Bon, mais ça, c'est très, très peu probable. Ce n'est pas du tout un échantillon typique. Ce qu'on voudrait, c'est pouvoir donner des propriétés d'un échantillon typique, c'est-à-dire où les Ni sont indépendants, et avoir la valeur que prend Z avec une probabilité raisonnable, proche de 1. Alors, l'idée naïve, avoir les propriétés de l'échantillon typique, naïve, consisterait à dire, bon, ben, ça dépend des Ni, on va moyenner. Donc l'idée naïve, ce serait de dire on va considérer la moyenne en moyenne Z. Alors, ça veut dire que les propriétés de l'échantillon typique seraient données par le Z moyen qui serait somme sur N1 égale 0 ou 1, somme sur Nn égale 0 ou 1, de ce Z qui dépend de tous les N, et puis avec la probabilité qu'il y a un atome magnétique à telle position. Donc ça serait P puissance somme des Ni, 1 moins P puissance N moins somme des Ni. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la moyenne recuite. Le mot recuit, je vais dire tout de suite pourquoi. Ça veut dire qu'on a moyenné Z par rapport au Ni. Et ça, cette idée de faire la moyenne recuite, c'est la mauvaise idée. Et on va voir pourquoi. Alors, la raison pour laquelle ça s'appelle la moyenne recuite, c'est que c'est effectivement ce que font les métallurgistes quand ils ont des impuretés ou quand ils veulent que les atomes s'ordonnent le mieux possible, eh bien, ils réchauffent suffisamment l'échantillon, donc ils le font passer dans un four pour le réchauffer, le refroidir, pour permettre aux atomes magnétiques de bouger à l'intérieur, quand il y a un alliage, aux atomes d'un certain type de bouger à l'intérieur du métal. Et donc, d'une certaine manière, ils essayent de se placer dans des conditions où ce temps devient de l'ordre de ce temps long. Et donc, c'est un moment où les atomes magnétiques commencent à bouger. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle recuit. On recuit le système pour faire bouger les impuretés ou les atomes d'un alliage. Mais dans le cas qui nous intéresse, dans la physique des systèmes désordonnés, ce n'est pas ce qu'on veut faire. Et donc, on n'a pas envie de faire cette moyenne. Et la moyenne qu'il faut faire, et je vais essayer d'expliquer pourquoi, c'est ce qu'il faut faire, c'est de moyenner le log de la fonction de partition. C'est ce qu'on appelle la moyenne gelée. Et on va voir pourquoi.
On doit moyenner le log de Z.
Donc, la barre, ici, hein, ça veut simplement dire que je pondère une quantité avec ses poids, dans ce cas-là. Et ça, c'est ce qu'on appelle la moyenne gelée.
Donc, quand on dit
on doit moyenner log Z, ce que ça veut dire, et c'est ce qu'on va voir dans une minute, c'est qu'en fait, si je prends le log Z sans moyenne typique, c'est-à-dire je prends un échantillon typique, eh bien, essentiellement, son énergie libre, le log Z, l'énergie libre, c'est moins T log Z, donc son énergie libre d'un échantillon typique, c'est-à-dire pas un échantillon rarissime où tous les atomes magnétiques seraient dans un coin, par exemple, l'échantillon typique aura la valeur log Z. Donc ça, c'est ce que je vais essayer de montrer. Alors, deux remarques avant de le faire. Bien sûr, ce que je raconte là, c'est très classique. Hein. La première, c'est que, bon, là, je vais décrire le problème magnétique. Donc, on va voir qu'on peut démontrer cette propriété. Dans d'autres cas, dans certains problèmes de transport, par exemple, ça n'est pas forcément toujours évident de savoir quelle quantité il faudrait moyenner. Enfin, il faut faire un certain travail pour savoir quelle quantité moyenner pour que les propriétés d'un échantillon typique ressemblent à cette moyenne. Ça, c'est la première chose. Une deuxième chose importante, c'est qu'on a une inégalité qui est parfois utile, c'est que log Z est plus petit que log Z. Donc, en particulier, quand on veut montrer certaines propriétés mathématiques, donc ça, c'est ce qu'on appelle... Ça n'a rien à voir avec les systèmes désordonnés, c'est moyenner n'importe quelle quantité et la moyenne du log est plus petite que le log de la moyenne, ça s'appelle l'inégalité de Jensen. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la moyenne gelée. En anglais, on dit quenched. Et là, on dit annealed. Donc ce que je vais essayer de vous montrer maintenant, c'est pourquoi on doit moyenner l'énergie. Donc c'est l'auto-moyennage de l'énergie libre. C'est-à-dire, c'est vraiment ce que j'ai écrit ici, c'est que si vous prenez un échantillon typique, sous-entendu suffisamment grand, donc si vous avez un système suffisamment grand typique, eh bien, son énergie libre va être très proche de cette moyenne. Et plus il sera grand, plus il sera proche de la moyenne. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre toujours ces modèles de magnétisme. Je vais prendre un exemple sur lequel, qui est central dans la théorie des systèmes désordonnés. C'est... un peu comme ces alliages, c'est un problème avec des interactions aléatoires. Donc imaginez que vous avez un réseau régulier, que sur chaque site de ce réseau, vous avez une variable dynamique qui est le spin. Ici, je prends des spins d'Ising pour simplifier. Ce que je vais dire pourrait être pour des spins quelconques. Et puis, ce que je raconte là, c'est dans le cadre de spin classique, hein, C'est-à-dire il n'y a pas d'opérateur qui ne commute pas là-dedans, donc c'est assez simple. Et on va considérer qu'on a une énergie qui est donnée par moins somme sur les voisins de couplage JJ, SISJ, éventuellement, si on est intéressé à des propriétés magnétiques, on va rajouter un champ magnétique qui est comme ça. Donc j'imagine que sur chaque paire, associé à chaque paire de voisins sur le réseau, eh bien, j'ai un couplage qui est tiré au hasard. Alors, je reviendrai là-dessus pour vous dire pourquoi on s'intéresse à ça. Et typiquement, le genre de situation auquel on peut s'intéresser, c'est un cas où les couplages sont donnés par, je prends cet exemple, mais ça n'a rien d'essentiel comme vous allez le voir, les couplages sont donnés par une distribution gaussienne. Et sont des variables indépendantes. Hein. Donc c'est des variables IID. Voilà un problème typique de la théorie des systèmes désordonnés. En fait, ce genre de problème a fait couler énormément d'encre. Il y a, je dirais, certainement des milliers d'articles qui ont étudié différentes variantes de ce problème avec ces couplages. Il y a les verres de spin, il y a des systèmes faiblement désordonnés. Par exemple, si J0 vaut 0, ça va être un modèle de verre de spin, dont je vais parler dans un petit moment. Si J0 est grand et petit J, et J est petit, eh bien, ça va être un système où il y a très peu d'impuretés, où il y a très peu de fluctuations, un sujet sur lequel je reviendrai la prochaine fois à propos du critère de Harris. Donc, c'est un sujet, un problème qui a été abordé pour différentes raisons et qui est très important dans la théorie des systèmes désordonnés. Alors, l'idée, elle est assez simple. J'ai mon grand système. Qui a une taille L. Et ce grand système, j'ai envie de le couper comme si on avait des ciseaux en sous-système qui sont de taille petite L. Ainsi de suite. Hein. Bon, je coupe, c'est-à-dire quand je dis je coupe, ça veut dire que je supprime les couplages entre les spins d'un sous-système et les spins du sous-système à côté. Donc, on coupe avec des ciseaux. Et donc, il y en a d'autres. Et mes sous-systèmes, ils sont de taille petite L. Et donc, c'est un petit calcul simple, c'est que le nombre de blocs, il va être égal à L puissance D sur L puissance D. C'est évident. Et maintenant, mon énergie qui est là, j'ai envie de la décomposer sous la forme une énergie E que j'appelle E0. Ce sont les liens internes au bloc. Et puis, plus un E que j'appelle S, c'est une énergie de surface, c'est l'énergie de tous les liens que j'ai coupés. Donc ça, c'est les liens coupés. Alors, une chose qui est facile à voir, il suffit de compter, toute la contribution des liens qui sont coupés, c'est que ES... c'est égal à moins somme des JJ, SI, SJ sur les liens coupés. Et donc, ceci, c'est, donc ça implique que ES, en valeur absolue, est plus petit que la somme sur les liens coupés de la valeur absolue des JJ. Donc, d'une certaine manière, ce que je suis en train de faire, c'est de m'assurer que ce que j'ai coupé va pas être très important. Hein, j'ai une somme, pris la valeur absolue de la somme, c'est plus petit que la somme des valeurs absolues. C'est pas plus malin que ça. Et donc, ceci, c'est un nombre A, et ce nombre A, essentiellement, il va être très proche, parce que si mon système est très grand, il y aura beaucoup de liens coupés, donc ça va être, simplement par la loi des grands nombres, ça va être très proche de la moyenne de cette quantité. Donc ça va être très proche d'un terme, un coefficient de surface, qui compte le nombre de liens coupés, et cette surface, ça c'est un calcul élémentaire, c'est combien de liens j'ai coupé là-dedans. Alors, si je ne me suis pas trompé, c'est L D moins 1, L sur petit L moins 1, fois D, si on prend un problème en dimension D. Donc voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'énergie totale du système, j'ai séparé la partie interne au bloc, et la partie de surface, essentiellement, la partie de surface, c'est un terme de surface qui ne va pas jouer un rôle très important dont j'ai envie de me débarrasser, mais je vais pouvoir m'en débarrasser facilement parce que je sais le borner par quelque chose et que je sais l'ordre de grandeur de ce quelque chose. Voilà. Donc, une fois que j'ai dit ça, eh bien, j'ai E puissance moins l'énergie totale du système moins A sur T, moins E0, donc plus petit ou égal à moins E de C sur T, plus petit ou égal à une puissance moins E0 de C sur T, plus A sur T. Donc là, je prends les poids de Boltzmann pour le système complet, et puis maintenant, comme j'ai borné la partie, comme on a borné la partie des liens coupés, la valeur la plus petite que ça pourrait avoir et puissance moins A sur T, la plus grande, c'est moins A sur T. Donc, voilà, on a ces bornes. C'est ça qui va me permettre de jeter ces termes de surface. Et maintenant, quand j'ai cette inégalité, ces inégalités, je somme sur toutes les configurations. Et là, j'ai la fonction de partition du système, la fonction de partition du système qui dépend de tous les JJ dans le système. Là, j'ai sommé sur toutes les configurations de spin. La configuration C, c'est S1, Sn. J'ai sommé sur toutes les configurations de spin, mais je n'ai pas encore fait quoi que ce soit sur les couplages. Donc, j'ai une fonction de partition d'un échantillon. Mais maintenant, quand je somme sur toutes les configurations, chacun des morceaux est indépendant des autres. Donc, en fait, à gauche... Et à droite, j'ai un produit de fonctions de partition, parce que c'est des morceaux qui ne se voient plus. Donc, vous savez bien qu'en physique statistique, quand vous calculez la fonction de partition de deux sous-systèmes, d'un système formé de deux sous-systèmes qui ne se voient pas, eh bien, c'est le produit des fonctions de partition. Donc, j'ai ça, puissance A sur T. Et là, j'ai Z1. Attendez, c'est pas Zn, c'est Zm, le nombre de blocs. Zm, Z1. Zm et puissance moins A sur T. Et donc, ça me dit que l'échantillon typique, eh bien, il va avoir... Je peux borner son énergie libre. Et maintenant, c'est presque fini pour la raison suivante. C'est que quand je vais calculer log Z de l'échantillon typique et que je vais diviser par le nombre total de spins, eh bien, à gauche, je vais avoir 1 sur le nombre d'échantillons somme des logs des ZI sur N, de I égale 1 à M, moins 1 sur T, divisé par grand N. Grand N, c'est L puissance D. Et puis, une inégalité du même genre, ici. 1 sur M, somme sur I de log des ZI, I égale 1 à M, plus A sur T divisé par L puissance D. Et alors maintenant, on a quasiment fini, parce que ici, j'ai un échantillon quelconque. À gauche, j'ai une somme de variables aléatoires indépendantes, donc il va y avoir une loi des grands nombres. Donc, il va y avoir une loi des grands nombres, et A sur L puissance D, le A... on a vu, c'est un terme de surface. Donc il a L puissance D moins 1. En fait, bon, il a peut-être un L puissance D, mais divisé par petit L. Donc si je suppose que j'ai un très grand système, que les morceaux eux-mêmes sont très grands, eh bien, A sur L puissance D, quand petit L devient très grand, ça tend vers 0. Donc essentiellement, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on peut négliger ces termes de surface. Bon, c'est un cas juste classique hein, en physique statistique quand on essaye de démontrer des limites thermodynamiques. Et essentiellement, l'énergie libre d'un système typique, c'est la somme d'un grand nombre d'énergies libres de systèmes indépendants. Et la somme d'un grand nombre de variables indépendantes, en général, c'est la loi des grands nombres. Donc, à droite et à gauche, je vais avoir que la somme de I égale 1 à M des logs de ZI, hein, ZI, c'est la fonction de partition de chaque petit sous-système, ça tend vers M, enfin, c'est proche, enfin, je vais être prudent compte tenu de l'assistance, que pas dire que c'est proche, enfin bon, c'est pas très loin de cette somme parce que c'est la loi des grands nombres. Et donc vous voyez que l'énergie libre d'un système typique va être donnée par la moyenne de l'énergie libre par unité de volume, hein, puisque les logs, attendez, là j'ai oublié le n, donc pardon, ça va donner ça. Et donc, ça, c'est l'énergie libre moyenne, c'est l'énergie libre gelée des petits systèmes. Et donc, l'échantillon typique d'un très grand système, ça va être essentiellement l'énergie libre par particule d'un petit système. Bon, c'est ça qui justifie cette idée de l'auto-moyennage de log Z. J'ai essayé de l'expliquer un peu en détail. En résumé, vous prenez le grand système, vous coupez en morceaux, vous montrez que les effets de bord donnent une contribution négligeable quand les morceaux sont grands. Et puis après, vous vous retrouvez avec des systèmes indépendants. Donc vous avez le produit des fonctions de partition. Et donc les logs, le log de la fonction de partition, ça va être une log la somme des logs. Et la somme des logs, il y a la loi des grands nombres. Alors, donc j'espère que j'ai un peu pas trop embrouillé cette histoire. Alors, plusieurs remarques à ce propos. Première remarque que je voudrais faire, c'est que parfois la moyenne recuite est très facile à calculer. Et souvent très facile à calculer. Pas toujours. Hein. Alors, si je reprends le modèle que j'avais considéré, là, c'est-à-dire une énergie qui est donnée par moins somme des JJ, SI, SJ, éventuellement moins H, somme de. Et si, bon ben, quand vous allez écrire, essayer de calculer la fonction de partition. La fonction de partition, c'est la somme sur toutes les configurations de spin de E puissance l'énergie divisée par T. Donc, ça va être la somme sur toutes les configurations de E puissance JJ, SI, SJ sur T plus H, SI. Hein, bon. Somme sur tous les voisins. Là. Bon, vous voyez que quand vous allez moyenner, si vous essayez de moyenner la fonction de partition, donc si vous vous intéressez à la moyenne recuite, encore une fois, la moyenne recuite, ce n'est pas forcément ce que vous voulez avoir, puisqu'on vient de voir qu'il faut moyenner plutôt le log de Z, mais là, vous allez juste avoir des intégrales gaussiennes sur les J, et donc, si vous moyennez sur les J, vous allez trouver la chose suivante, c'est que ceci, la fonction de partition, va valoir E puissance N Z J2 sur 2T2 fois la fonction de partition d'un système pur avec comme couplage J0 et un champ H. Hein, donc, moyenné sur les J, ça vous ramène souvent au système pur. Hein, par exemple, si vous prenez les couplages dont je parlais tout à l'heure, rho de jj égale e puissance moins jj moins j0 au carré sur 2j2, si vous prenez des couplages indépendants gaussiens, et si vous placez encore dans un cas beaucoup plus simple où vous avez h égale 0 et j0 égale 0, donc vous prenez des variables gaussiennes centrées, de moyenne nulle, eh bien, ici, le z pur, il va valoir simplement 2 puissance n. Donc, d'une certaine manière, calculer la moyenne recuite, c'est fait. On a 2 puissance n et puissance nz j2 sur 2t2. Donc, c'est un calcul qui se fait en une ligne. Vous avez moyenné sur les couplages. Ou bien, si le j0 et les h ne sont pas nuls, vous tombez sur le système pur. Et alors, bon, il y a toujours un arrière-plan. Enfin, on va revenir un peu là-dessus. Dans la théorie des systèmes désordonnés, c'est que quand on ramène quelque chose au système pur, en gros, on considère que c'est fini. Ce qui ne veut pas dire que tout est facile, puisque la physique statistique des systèmes purs n'est pas forcément... On ne peut pas tout dire. Mais en gros, on peut utiliser les techniques qui existent déjà. Bon, alors, il y a une deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que si vous regardez les systèmes désordonnés à l'équilibre, en général, vous allez avoir une fonction de partition qui dépend des couplages, qui est la somme sur toutes les configurations de spin de une énergie qui dépend des spins et qui dépend des couplages. Et l'énergie, hein, je viens de l'écrire, elle est je ne sais pas si elle est encore écrite ici. Voilà, typiquement, vous avez une énergie de ce genre-là. Et vous voyez que la seule chose, si vous prenez cet exemple, la seule chose qui dépend des couplages, le seul endroit où se trouvent les couplages, c'est ici, ce qui fait que les énergies sont par exemple des variables gaussiennes, puisque ça va être une somme de variables gaussiennes, et donc les énergies sont des variables corrélées. Les énergies qui sont là, l'énergie d'une configuration, E de C, est corrélée à E de C'. Donc d'une certaine manière, ce que vous voyez, c'est que la fonction de partition, ça n'est rien d'autre qu'une somme de variables aléatoires malheureusement corrélées. Si elles étaient indépendantes, on pourrait dire beaucoup de choses, on verra peut-être pas cette année, mais qu'on peut dire pas mal de choses dans le cadre des verres de spin, mais de manière générale, si vous voulez, je vous disais, il y a des milliers d'articles sur ce problème, ici, avec des couplages aléatoires, mais après tout, du point de vue mathématique, ça n'est rien d'autre que de dire que j'ai les poids de Boltzmann qui sont là-bas, ce sont des variables aléatoires corrélées. Et donc, si vous êtes capable de dire des choses sur des sommes de variables aléatoires corrélées, eh bien, vous avez résolu tous ces problèmes. Et tout le débat, beaucoup de travaux, en particulier mathématiques, ont à voir avec comment vous arrivez à contrôler, à trouver l'influence de ces corrélations. Donc, ça, c'est donc de dire que les EC sont corrélés. La troisième remarque que je veux faire, c'est une question qu'on va regarder la prochaine fois. La prochaine fois, je vais essayer de discuter les propriétés des systèmes où le désordre est faible. Ce sera une des questions, pas forcément la seule. Mais et donc ici, si vous prenez J très petit, vous allez avoir un système qui a un tout petit peu de désordre. Et il y a des questions, en particulier le critère de Harris, donc il sera question la prochaine fois, qui a à voir avec savoir est-ce que si j'ai un système avec très peu d'impuretés, finalement, il va changer de manière drastique les propriétés du système. Alors, par exemple, dans le cas du transport des électrons, ça aussi, c'est quelque chose qu'on verra, c'est que en dimension suffisamment basse, eh bien, un tout petit peu de désordre va changer complètement le système qui pouvait être métallique, va devenir isolant, un tout petit peu de désordre change qualitativement les propriétés. Bon, donc ça, c'est faible désordre. Et la quatrième remarque que je veux faire, c'est qu'ici, on a vu qu'on doit moyenner log z. Et on a mis des bornes et puis on est arrivé avec la loi des grands nombres. Maintenant, le fait qu'on doit moyenner log z n'implique pas que donc on dit que l'énergie libre est auto-moyennante n'implique pas que que les dérivés de l'énergie libre sont auto-moyennantes. Donc parfois on peut s'intéresser, je ne sais pas, à l'aimantation, la susceptibilité, qui sont des dérivés de l'énergie libre. Et malheureusement, quand vous avez des bornes, vous savez bien que si vous dérivez des inégalités, ça ne reste pas forcément vrai. Il faut certaines conditions sur les propriétés de ce qu'il y a dans les inégalités pour pouvoir les dériver. Donc ça n'implique pas que les dérivés de log z sont auto-moyennantes. Hein, auto-moyennantes, ça veut dire que l'échantillon typique est donnée par la moyenne sur le désordre. Bon, alors, maintenant, je vais essayer de parler d'un modèle, donc, qui est essentiellement celui-là, je vais essayer de justifier pourquoi les gens se sont mis à étudier ce modèle. Et ce modèle, en particulier quand J0 vaut 0, il s'appelle le modèle d'Edward Sanderson. Donc ça, c'est ma cinquième remarque. C'est le modèle d'Edward Sanderson,
qui date de 1974. Donc c'est ma cinquième remarque. Pour l'instant, c'est le modèle d'Edward Sanderson. Et donc c'est un modèle où on a des spins qui sont sur un réseau régulier avec des couplages aléatoires.
Et bon, disons, pour simplifier, on va supposer que J0, donc on a un réseau régulier avec des spins et avec des couplages aléatoires. Alors pourquoi ils ont essayé d'étudier ce problème ? Eh bien, au départ, ils étaient intéressés par ce qu'on appelle les problèmes de verre de spin, c'est-à-dire le problème de départ, c'est un système avec quelques impuretés, enfin, une faible concentration d'impuretés magnétiques. Donc, rien n'est magnétique. Donc, tout à l'heure, je disais qu'il y a des alliages avec un certain nombre d'atomes magnétiques et d'autres qui ne le sont pas. Là, ils ont pris un métal. Enfin, le problème, c'était des métaux avec quelques impuretés magnétiques qui sont diluées comme ça, avec une petite concentration. Ça va être un problème de verre de spin. Alors, en quoi... pourquoi ça a intéressé les gens ? À beaucoup d'égards, parce qu'ils s'intéressaient à la façon... en particulier à un moment dont la conductivité du métal va dépendre de la température, et l'effet des impuretés avait une influence importante. C'est lié à ce qu'on appelle l'effet Kondo, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails, d'ailleurs je ne suis pas forcément un expert, mais une des propriétés qui avait été comprise dans les années 50, c'est de montrer que quand vous avez quelques impuretés magnétiques dans un système, il y a des interactions, et elles interagissent sous la forme suivante, somme sur les positions sur les paires d'impuretés d'un J de RI moins RJ qui dépendent des positions. Donc les RI et RJ, c'est les positions des impuretés, S, I, SJ. Et dans les années 50, la forme de cette interaction a été comprise et ça s'appelle l'interaction de RKKY, donc ce qui date des années 50. C'est RKKY, c'est juste des... les noms de Ruderman, Kittel, Kazuya et Yoshida. Bon. Donc, essentiellement, ils ont trouvé la forme de ces interactions. L'origine physique de ces interactions, c'est que quand vous avez un atome magnétique quelque part dans un métal, il va polariser les électrons du métal. Cette polarisation va faire que, via ces électrons du métal, il va interagir avec une autre impureté qui est plus loin. Et c'est essentiellement les atomes qui sont proches de la surface de Fermi, les électrons qui sont proches de la surface de Fermi, qui vont transporter qui vont être responsables de ces interactions entre les atomes magnétiques éloignés. Bon. Je ne vais pas écrire la forme, qui n'est pas très compliquée, de cette interaction, parce qu'on ne va pas s'en servir. Mais la chose qui est importante, c'est que cette interaction de Ruderman-Kittel, elle change de signe quand on se déplace. Donc, le couplage JJ, c'est un couplage, en fonction de la distance R, qui a des formes de ce genre. Donc, qui décroît lentement avec la distance et qui a des formes de ce genre. Et a priori, que je suis en train de vous décrire, ça c'est le J de R, c'est un problème de système désordonné, puisqu'il y a des impuretés qui sont mises au hasard, le couplage va dépendre de la position de ces impuretés qui sont censées ne pas bouger, et donc, et puis il y a les spins qui sont les variables dynamiques. Mais ce problème est plus compliqué. Ça c'est le problème de verre de spin, et juste. Enfin, c'est un sujet immense, les verres de spin. Il serait question, j'ai pas prévu d'en parler cette année, mais dans le futur. Mais aujourd'hui, je vais en parler un petit peu. Mais une des raisons pour lesquelles ce sujet a beaucoup intéressé les gens, c'est que dans les années 70, donc ça doit être en 72, il y a un article de Canella et Midoche qui a observé une transition de phase dans ces systèmes. Et donc, ils ont mesurer en fonction de la température la susceptibilité magnétique. Donc la susceptibilité magnétique, c'est juste, on rajoute un petit champ magnétique et on regarde quelle est l'aimantation de ce système. Donc, comme c'est des expériences, ils mettent l'aimantation divisée par H pour un H petit, et ils ont observé ce qu'on appelle un cusp dans l'énergie libre. En fait, ils ont même, dans la susceptibilité magnétique, et même ils ont observé la chose suivante, que la susceptibilité pouvait avoir deux formes selon la procédure expérimentale qui suivait, c'est-à-dire que si on a un champ magnétique, et quand on veut mesurer la susceptibilité, on prend le champ tout petit. Il y a une première possibilité, c'est de refroidir le système sous le champ. Donc on met un champ, on refroidit le système. Ça donne cette courbe-là. Ça s'appelle le zérophile cool. Et si on refroidit d'abord le système et que... c'est Phil Coult, excusez-moi. Et si on refroidit d'abord le système et que on met le champ magnétique après, c'est ce qu'on appelle le zérophile cool, simplement, hein, refroidi sous champ, en champ nul, ou refroidi en champ. Et donc, le simple fait, déjà, du point de vue de la physique statistique, le simple fait de voir deux courbes, ça signifie qu'au moins l'une d'entre elles n'est pas une courbe d'équilibre. Donc, il y a eu toute une série de travaux importants, ça a beaucoup intéressé les gens, d'essayer de comprendre ce qui se passait lors de cette transition. C'est le problème des verres de spin. Est-ce que c'est une véritable transition? Est-ce que si on attend très très longtemps, ça bouge? Tout ça, c'est une longue histoire que je ne veux pas aborder. La seule chose que je voulais dire ici, c'est qu'il y a ce problème avec des impuretés qui sont diluées à l'intérieur de mon métal. Et Edward Sanderson, d'une certaine manière, on fait un saut en disant, au lieu d'avoir des couplages qui changent de signe, qui sont dus à des positions, qui vont rendre les choses compliquées, allons-y, mettons tous les spins sur un réseau régulier et mettons des couplages aléatoires avec des signes positifs ou négatifs, puisqu'ici aussi, les couplages avaient des signes positifs et négatifs. Donc, ils ont d'une certaine manière simplifié ce problème en le mettant sur un réseau régulier, ce qui permet avec des interactions à courte portée, alors qu'au départ, ces interactions décroissent avec la distance. Donc, c'est une grande simplification. Et un des grands mérites de ce modèle d'Edward Sanderson, qui date de 1974, eh bien, c'est que beaucoup des propriétés observées dans les expériences se retrouvent dans ce modèle. Donc, les gens ont fait des simulations, ils ont vu que les propriétés étaient préservées. Alors, ce modèle avec des couplages aléatoires, en fait, il apparaît dans d'autres contextes que je mentionne très rapidement. Vous avez des couplages aléatoires ici, et il apparaît. Enfin, il y a des modèles aussi dont il sera question quand je ferai un cours sur les systèmes complexes et les verres de spin. Les JJ peuvent avoir des valeurs positives et négatives. En fait, ils apparaissent, par exemple, quand on s'intéresse aux réseaux de neurones. Quand vous avez des réseaux de neurones, il y a des interactions entre neurones qui sont excitatrices, qui font que quand un neurone est actif, il a envie que l'autre, un avec lequel il interagit, soit aussi actif. Ça correspond à des JJ positifs. Et puis, il y a des interactions inhibitrices qui font que quand un neurone est actif, il a plutôt envie, il influence un autre neurone de façon à ce que l'autre ne le soit pas. Et donc ça, c'est des couplages négatifs. Si on fait cette analogie en disant qu'un spin plus, par exemple, serait un neurone actif et un spin moins serait un neurone passif. Donc ça, c'est donc il y a ces problèmes de réseau de neurones qui est aussi un sujet qui est lié, enfin au moins vu par les physiciens, qui est lié à la théorie des verres de spin. Il y a aussi d'autres problèmes avec des couplages qui sont positifs ou négatifs. Il y a des problèmes de type sociologie auxquels on peut penser. C'est dans les années 70, il y a Gérard Toulouse qui a parlé de mots de frustration. Donc à partir du moment où vous avez un système avec des interactions de tous les signes, eh bien, vous allez avoir du mal à savoir quelle est la situation, qu'est-ce que vous allez voir à basse température. Donc, l'exemple que prenait Gérard Toulouse, c'est simplement si vous avez trois de ces spins, et puis que le couplage ici est positif, J1-2 est positif, J1-2-3, J1-3 est positif, J2-3 est négatif. Et voilà, si vous avez simplement un système avec trois spins, et que vous dites, qu'est-ce qui se passe quand je suis à basse température? Si vous baissez la température, eh bien, a priori, vous voulez minimiser l'énergie, donc le spin 1 a envie de s'aligner avec le spin 2, le spin 1 a envie de s'aligner avec le spin 3, mais le spin 2 a envie de pas être aligné avec le spin 3. Donc, c'est des situations frustrées où, par exemple, vous aimez deux amis qui ne s'aiment pas, donc vous ne pouvez pas les inviter en même temps. Et donc, ça c'est finalement le point de... le lien avec toutes sortes de problèmes d'optimisation qui sont abordés avec les techniques de la théorie des systèmes désordonnés. Bon. Alors, une des propriétés de ce modèle plus réaliste d'impureté magnétique dans une matrice, ou bien du modèle d'Edwards-Anderson, une des propriétés typiques de ces problèmes, c'est que quand vous refroidissez le système, vous posez, bon, comme toujours en physique statistique, quand le système est froid, très froid, eh bien, il va se trouver dans des énergies qui sont dans les configurations qui ont les énergies les plus basses, hein, puisqu'il y a juste le poids de Boltzmann et puissance moins E sur T. Donc, à très basse température, il faut savoir quelles sont les configurations qui minimisent l'énergie, celles qui sont proches de ce minimum. Alors, quand tous les couplages sont positifs, c'est facile. Tous les spins se mettent à aligner, c'est l'état ferromagnétique. Hein. Si tous les couplages sont positifs, pas de problème. Quand vous commencez à avoir de la frustration, eh bien, quelles sont les configurations qui vont minimiser l'énergie, ben, c'est des problèmes d'optimisation en soi qui ne sont pas simples, qui sont un des problèmes d'optimisation auxquels on peut penser. Et l'image que l'on a, c'est la chose suivante, c'est que l'énergie en fonction de la configuration, eh bien, ça va être quelque chose qui va être comme ça. Ça va être comme un paysage très montagneux avec des vallées, des sommets, etc. Un paysage très compliqué. Et ce à quoi on s'attend, c'est que si vous prenez un autre échantillon, eh bien, un autre échantillon, il va avoir un paysage semblable. Pas du tout le même, un paysage semblable. Et quand vous allez refroidir le système, eh bien, cette image, elle permet déjà qualitativement de comprendre beaucoup de choses. Par exemple, que le système va être très lent, puisque quand vous allez le refroidir, vous allez baisser son énergie, il va commencer à se bloquer dans certaines de ses vallées. Hein, bien sûr, cette image est forcément un peu très fausse, parce que l'ensemble des configurations, ce n'est pas un espace unidimensionnel, mais enfin, c'est juste une représentation. Mais quand vous allez refroidir le système, il va se bloquer dans un certain nombre de ces minima. Et donc, d'une certaine manière, vous avez besoin d'être capable de dire des choses sur les propriétés statistiques de ces paysages aléatoires. Bon, alors maintenant, je vais en venir à quelque chose, à un des outils principaux de cette théorie des systèmes désordonnés, qui est ce qu'on appelle la méthode des répliques. Donc, la méthode des répliques, elle part du dogme, si vous voulez, parce que j'ai montré tout à l'heure, que ce qu'on veut, c'est calculer la moyenne de l'énergie, la méthode des répliques. Donc, hein, on doit moyenner log z, compte tenu de ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, si vous prenez un très grand échantillon, eh bien, son énergie libre, c'est un échantillon quelconque, typique, avec une très grande probabilité, elle va être proche de ça. Tous les échantillons qui n'auront pas ça, ils sont très peu probables, donc vous pouvez les oublier. Alors, la méthode des répliques, elle repose sur plusieurs faits. Hein, donc je vais prendre toujours comme exemple ce modèle d'Edwards-Anderson. Je vais prendre dans le cas simple. Hein, E égale moins 100 TJJ et CSJ. Moi, je ne vais pas mettre de champ magnétique. Bon, enfin, vous pouvez le mettre, ça va pas changer grand-chose. Et je vais prendre des JJ qui sont gaussiens. Alors, la méthode des répliques, elle repose sur le fait que souvent, il est facile, entre guillemets, de calculer quand je me fascine, on va voir, de calculer Z, les moments entiers de la fonction de partition, Zn. Tout à l'heure, on a vu que pour n égale 1, c'est facile, pour 0, c'est facile, pour 1, 2, etc., c'est facile, pour les entiers. Enfin, c'est facile. Plus les n va augmenter, plus ça va être compliqué. Donc, ça, c'est... On va le voir explicitement dans le cadre du modèle d'Edward Sanderson. C'est facile de calculer les Zn. Enfin, on peut se placer dans une situation où c'est facile. Et ensuite, puisque en fait, c'est pas ce qu'on veut, on veut pas les moments, bah, on peut utiliser la formule qui est que Zn moins 1 sur n, quand n tend vers l'infini, quand n tend vers 0, c'est log Z. Donc, on se dit, supposons que je sache calculer les z puissance n, si après, j'arrive à voir comment ça dépend de n, avoir une formule où n apparaît comme un paramètre, et que je peux aller à n égale à 0 en prenant cette limite. Donc là, en fait, quand je dis ça, on rompt les amarres avec les mathématiques. C'est-à-dire, voilà, on connaît quelque chose sur les entiers, et d'une certaine manière... On espère, c'est souvent le cas, on espère que la formule qu'on a trouvée pour les n entiers reste valable pour les n non entiers, et on veut prendre cette formule, utiliser cette formule. Et quand je dis qu'il est facile de calculer z puissance n, en fait, le calcul des z puissance n se ramène à un système pur. Donc cet aspect de calculer les moments de la fonction de partition qui se ramène à étudier un système pur, ça, du point de vue mathématique, il n'y a aucun problème. Le seul point qui pose problème, c'est d'avoir essayé de calculer pour les n entiers et de passer à n égale 0. Alors, une façon de s'en rendre compte que ça pose problème, c'est supposons que j'ai... attendez, j'ai pris un tout petit exemple. Supposons que j'ai... un Gn, bon, puis alors que z puissance n vaille ce qu'il vaut, et puis que je lui rajoute plus sinus pi n. Bon, hein, donc il vaut ce qu'il vaut, et je rajoute sinus pi n, voilà, une fonction qui est 0 sur les entiers et qui va. Ben manifestement, quand je vais faire cette opération, le résultat va dépendre de ce que j'ai rajouté ici, à condition que j'ai rajouté une fonction qui s'annule sur tous les entiers. Donc, ce que prendre cette limite suppose... Alors, attendez, donc ça, c'est... Pardon, j'ai pas terminé ce que je voulais dire. Cette formule-là, elle est tout le temps vraie. Bon, et après, l'idée, c'est de moyenner ici et d'obtenir l'énergie libre souhaitée, comme ça. Donc, supposez que vous avez calculé z puissance n, mathématiquement, vous pouvez rajouter des choses qui valent 0, et ça donnerait un autre résultat. Donc, pour que ça fonctionne, si on veut vraiment étudier ce genre de problème mathématiquement et rigoureusement, il faut savoir comment le z puissance n va se prolonger au non-entier. Alors, bon, il y a des cas où ça peut se démontrer qu'il y a un prolongement unique, mais ce n'est pas forcément toujours le cas. Donc ça, c'est là où les physiciens, finalement, prennent le large. Bon, alors, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que le calcul des moments de la fonction de partition revient à étudier un système pur. Et quand on tombe sur un système pur, eh bien, l'affaire est réglée. Alors, donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Enfin, l'affaire est réglée, plutôt. Ce qui se passe, c'est que si vous ramenez le système pur, eh bien, d'une certaine manière, vous pouvez utiliser les outils qui sont à disposition pour la physique des systèmes non désordonnés. Donc, en gros, vous tombez sur toutes les méthodes qui existent, toutes les approximations qui existent pour les systèmes non désordonnés. Alors, on va voir ce qui se passe pour les Zn. Donc, je vais prendre cette énergie-là. Et maintenant, la fonction de partition, c'est la somme sur toutes les configurations de spin de et puissance moins cette énergie qui dépend des spins et qui dépend des couplages Et maintenant, écrire z puissance n, eh bien, quand on met puissance n, en fait, ça va être n copies du même système. Hein. Z, c'est mon système. Et donc, z puissance n, donc ce z, il dépend des couplages. Et z puissance n, qui dépend des couplages, eh bien, c'est la somme des SI. Donc, il y a plus 1 ou moins 1. Et puis, somme des SIN égale plus 1 ou moins 1. Donc, je fais N copies du système. Et puis, il va y avoir l'énergie E du premier système qui dépend des J sur Phi. Et puis, moins E du Nème système et des mêmes J, c'est les mêmes J, hein, puisque c'est les mêmes interactions sur tout. À ce moment-là, quand j'ai écrit ça, bah, j'ai des systèmes qui ne se voient pas, les répliques ne sont pas couplées du tout. Et maintenant, la méthode des répliques, ça consiste à dire, eh bien maintenant, je moyenne ça sur les couplages. Hein. Je calcule les moments de la fonction de partition, et puis après coup, une fois que j'aurai fait ça, j'espère pouvoir avoir une dépendance en n qui est suffisamment explicite pour pouvoir terminer mon calcul et calculer l'énergie. Alors, quand on fait ça, donc essentiellement, si vous voyez l'énergie, chacune de ces énergies est linéaire dans les couplages. Donc, si je prends des couplages qui sont gaussiens, comme j'ai fait auparavant, hein, c'est-à-dire exponentielle moins jj au carré sur 2j2, ça c'est la distribution de mes couplages. Bon, bah, le terme qui est là est linéaire dans les couplages, donc si je moyenne, bah, je moyenne quelque chose, l'exponentielle de linéaire avec des couplages gaussiens, le calcul se fait, c'est juste des intégrales gaussiennes. Pour chaque lien, je vais trouver des intégrales gaussiennes. Donc, je vous donne le résultat, mais il y a une ligne de calcul, c'est somme de SI1 égale plus 1 ou moins 1, et puis somme des SIN égale à plus 1 ou moins 1, j'écris ce que ça donne, et puissance, somme sur tous les I voisins de J, de J2 sur 2T2, somme des alpha égale 1 à N de SI alpha, SJ alpha au carré. Et alors là, voilà, ça c'est le cœur de la méthode des répliques. C'est-à-dire, je suis parti d'un système désordonné, j'ai fait considérer n répliques, n copies du même système. Avant de moyenner, ces n copies toutes dépendent du couplage JJ, donc bon, mais elles ne se voient pas. Je moyenne sur le couplage JJ, et hop, j'ai plus de désordre, mais j'ai n copies du même système. Donc, où est-ce que je me retrouve? Je me retrouve avec maintenant n spins sur chaque site. Mais maintenant, c'est un système pur. Il n'y a plus de désordre. Et ça, a priori, c'est totalement, une façon totalement rigoureuse de calculer les moments z puissance n. Donc les moments z puissance n, c'est juste avoir un système avec n spins sur chaque site. Ces spins, maintenant, des différentes copies, alpha, c'est le numéro de la copie, le numéro de la réplique, ces spins interagissent. Ils interagissaient pas avant la moyenne, maintenant ils interagissent. Donc je me retrouve avec un système plus compliqué, mais pur. Alors maintenant, je peux utiliser toutes les techniques qui sont utilisées d'habitude pour les systèmes purs. C'est ce que je vais essayer de faire maintenant. Alors, donc ça, c'est un peu... Il est facile de calculer z puissance n. Le facile, bon, si on a n spins sur un site, c'est pas forcément évident de savoir le faire, mais on peut utiliser les méthodes, toutes sortes de méthodes, les développements en série, les approximations diverses et variées, les simulations, tout ce qu'on veut, pour calculer ça. Donc ça, ce n'est pas vraiment le problème. Le point embêtant est celui-là, c'est-à-dire qu'il faut arriver à mettre les choses sous une forme où la dépendance en n est suffisamment explicite pour pouvoir faire la limite n égale à 0. Donc je vais essayer de faire ça d'ici la fin de ce cours, et on va voir, on va le faire dans le cadre du champ moyen, et malheureusement, ça n'est qu'une approximation, et cette approximation, en fait, dans le cadre du modèle d'Edward Sanderson, c'est la boîte de Pandore, c'est-à-dire quand on a fait cette approximation, ils ont fait cette approximation du champ moyen, en gros, ils ont réussi à trouver le cusp de la susceptibilité dont je vous parlais tout à l'heure, mais ça a été à l'origine d'énormément de travaux et de discussions parce que la façon dont est prise la limite n tend vers 0 était bancale, et donc ça a pris de nombreuses années avant qu'on comprenne, et en particulier qu'on arrive à montrer que la procédure qu'ils avaient utilisée n'était pas correcte, pourquoi elle n'était pas correcte, par quoi il fallait la remplacer, et que ça a été finalement démontré mathématiquement. Donc tout ça, c'est un monde en soi, dont je ne vais pas parler cette année, mais dont je parlerai peut-être plus en détail dans le futur. Mais ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est juste prendre ce système avec les répliques et voir ce qu'on peut faire et voir comment la dépendance en n va pouvoir apparaître explicitement. Alors, ce que je vais faire, c'est le champ moyen et les répliques. C'est-à-dire, ce problème-là, il est compliqué. Même le problème à d'easing à trois dimensions, on n'a pas une solution explicite, donc, et avec un seul spin par site. Donc avec n spin par site, c'est encore plus dur, donc il ne faut, pas espérer avoir une solution à toute dimension de ces problèmes. Même à deux dimensions, calculer ça, quand n n'est pas 1 ou 2, c'est compliqué. Alors ce qu'on peut faire, c'est l'approximation du champ moyen. Donc je vous rappelle brièvement l'approximation du champ moyen. Alors, pour s'entraîner, d'abord c'est une petite approximation, pour s'entraîner, je vais vous rappeler comment ça marche dans le cas d'un ferromagnétique. Enfin, une façon de voir le champ moyen dans le cas d'un ferromagnétique. Donc un ferromagnétique, donc, c'est juste l'entraînement, système ferromagnétique. Donc c'est le cas particulier où tous les couplages valent J. Donc ils sont tous ferromagnétiques, ils sont positifs. Les spins à basse température, ils ont envie de s'aligner entre eux. Et donc l'énergie du système vaut moins J, somme de I voisin de J, de SISJ, éventuellement moins H, somme de SI. Ça, c'est l'hamiltonien ferromagnétique. Et maintenant, je vais faire ce qu'on appelle l'approximation de champ moyen qu'on peut introduire de nombreuses façons, qui n'est qu'une approximation avec ses défauts, mais qui consiste à dire, bon, ben, je vais regarder le spin numéro I et je vais remplacer tout le reste, tous les autres spins du système, par leur moyenne. C'est-à-dire, au lieu de m'intéresser à ce problème qui est compliqué, parce qu'il y a n spins, grand n spins, eh bien, je vais m'intéresser à un système où il y aurait un seul spin, le spin I, et puis l'effet de tous les autres spins, c'est je remplace par la valeur moyenne. Donc je remplace les SJ par leur moyenne. Donc cette somme, ça va être Z fois l'aimantation M, donc, et puis moins HSI. Donc je m'intéresse juste au spin I, et je dis, je regarde l'effet moyen de ses voisins sur lui. Voilà, c'est le champ moyen. C'est une façon de penser au champ moyen. Bon, alors, si vous intéressez à ça, effectivement, quand vous avez un seul spin, c'est facile de calculer tout ce que vous voulez pour un seul spin. Et donc, vous allez trouver que la valeur moyenne de ce spin, il a deux états possibles, donc c'est très facile de le voir. Ça va être tangente hyperbolique de ZJM plus H sur T. Et bon, puisque tous les spins dans le système ferromagnétique ont la même valeur, c'est un système pur, donc il y a une invariance par translation, vous allez écrire que ceci, c'est égal à l'aimantation moyenne des spins, et ça vous donne l'aimantation que vous allez pouvoir calculer comme cette solution. Et ce que vous allez voir, bon, c'est la solution de cette équation transcendante, mais sûrement que vous avez déjà vu dans le passé. Et donc, vous allez avoir, en fonction du champ magnétique, deux situations. Si vous dessinez la solution de cette équation, quand vous partez avec un très fort champ magnétique et que vous refroidissez, eh bien, si la température est plus petite qu'une certaine température critique qui ici vaut Zj, eh bien, vous vous retrouvez avec une aimantation qui est non nulle. C'est la solution de cette équation. Pour H grand, c'est M égale 1. Et puis vous refroidissez, vous tombez là-dessus. Et par contre, si la température est plus petite que Tc, eh bien, ça s'annule. C'est la phase paramagnétique, c'est-à-dire le système n'a pas d'aimantation spontanée. Au-dessous de Tc, il a une aimantation spontanée. En dessous, il n'a pas d'aimantation spontanée. Alors, ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est de faire la même chose pour le modèle d'Edwards Sanderson qui est là. Donc vous voyez, dans le modèle d'Edwards Sanderson, les Poiat-Boltzmann, une fois que j'ai fait la méthode des répliques, bon, la dépendance, au lieu d'avoir T, on a T2 ici, mais essentiellement, on a E puissance quelque chose. Et donc, je vais essayer de faire le champ moyen. En fait, c'est ce qu'a fait cet article très célèbre d'Edwards Sanderson dans le cas des répliques pour ce modèle-là. Je vais essayer de suivre la même démarche. Alors, pour faire ça, vous voyez, j'ai un peu, pour simplifier un peu la vie, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un champ magnétique dans le système, et puis pour voir si le système est ferromagnétique ou pas, j'ai dit, je fais mon calcul avec un champ magnétique, et je tends vers zéro, je le fais tendre vers zéro après. S'il me reste une certaine aimantation, je suis dans la phase ferromagnétique. Si l'aimantation s'annule, je suis dans la phase paramagnétique. Alors j'ai envie de faire quelque chose de la même, du même genre, hein, c'est ce qu'on fait Edwards Sanderson, c'est de rajouter quelque chose à cet Hamiltonien ici, et puis ce quelque chose, il tendra vers zéro après. Donc je vais rajouter quelque chose ici, plus, un peu comme on a rajouté le champ magnétique tout à l'heure, enfin, comme il y avait le champ magnétique ici, donc c'est un terme du même genre, H somme dSI, bien je vais rajouter plus epsilon somme sur I de SI. Attendez que je regarde ce que je veux rajouter pour ne pas dire de bêtises. Somme sur alpha différent de bêta. Donc alpha, c'est des indices de réplique, et somme sur I de SI alpha, SI bêta. Donc je rajoute ce terme. Alors, bon, pourquoi on rajoute... Enfin, encore une fois, à la fin, on va le faire tendre vers zéro. Mais pourquoi on rajoute ce terme ? Ben, tout à l'heure, quand on, dans le cas ferromagnétique, on a rajouté un champ. Ce champ permettait de choisir, d'une certaine manière, l'orientation du système ferromagnétique. On a favorisé la direction plus quand on met un champ positif. Ce terme-là, quel est son rôle ? Comme je vous disais tout à l'heure, le paysage dans ces systèmes de type Edwards Sanderson vers de spin, c'est un paysage très compliqué. Des énergies. Et quand je mets un couplage de ce genre, bien d'une certaine manière, j'ai mes deux répliques. J'aurais pu le mettre d'ailleurs. Enfin, bon, toutes mes répliques. Et d'une certaine manière, ça, c'est un terme qui tend à faire que les répliques soient regroupées entre elles. Donc, d'une certaine manière, comment je sais si ce paysage a beaucoup de minima, etc. Enfin, ça, c'est un peu l'image que je m'en fais au départ. Mais je voudrais savoir, est-ce que cette image est vraie ou est-ce qu'au contraire, c'est un paysage très doux et où la configuration peut bouger facilement. Comment je peux le faire ? Ben, j'imagine que je mets deux copies du même système, que je les couple. Donc, d'une certaine manière, je mets deux configurations typique du même système, de copies, je les couple, et puis à la fin du calcul, je fais tendre ce couplage vers zéro. S'il y a un paysage très compliqué comme ça, et que je fais tendre le couplage vers zéro, ils vont rester dans la même vallée. Si c'est un paysage très doux, quand je fais tendre le couplage vers zéro, ils vont s'éloigner l'un de l'autre, il n'y a rien qui va les retenir. Donc ce epsilon, c'est une interaction qui a tendance à les maintenir ensemble. Je les maintiens ensemble, et puis à la fin du calcul, je le fais tendre vers zéro, et je regarde est-ce qu'il reste quelque chose ou pas, comme ça a été le cas tout à l'heure dans le cas du ferromagnétique. Bon, donc je vois que je suis un petit peu long, mais j'espère que je vais arriver quand même là où je voulais en arriver. Donc, quand vous voyez ça, vous voyez que le problème tel qu'il est posé ici, c'est sur chaque site I, j'ai n spins. Et puis, il y a n spins sur tous les sites du réseau. Donc, je vais essayer de faire la théorie de champ moyen. Et la théorie de champ moyen, comme dans le cas ferromagnétique, je vais m'intéresser à un seul site. Donc, mais sur ce site, c'est quand même encore compliqué, parce que sur ce site, il y a quand même petit n spin à cause du problème des répliques. Donc je remplace mon énergie donc, telle que ça apparaît ici. Tout se passe comme si j'avais une énergie, quand j'ai n répliques, tout se passe comme si j'avais une énergie qui était donnée par moins J2 sur 2T2, somme sur I voisin de J, somme de alpha égale 1 à n de Si alpha Sj alpha, le tout au carré. Donc c'est ce carré qui fait que les répliques se mettent à interagir. Et puis j'ai moins somme, ce terme que j'ai rajouté, somme sur I, somme sur alpha différent de bêta, de Si alpha Si bêta. Et maintenant, je veux faire la même approximation que j'ai faite tout à l'heure. C'est-à-dire, je me dis, oh là là, il y a tous ces spins qui interagissent entre eux, sur tous les sites, etc. Je veux prendre un U-tilde qui va juste remplacer tout ce qui se passe sur les autres sites par un champ moyen. Et alors, vous voyez que le spin I, il va... Attendez, j'espère que je ne dis pas de bêtises. Oui, un spin I, il va interagir à travers... peut-être je vais... Avant de faire ça, je vais peut-être le réécrire, ce truc-là, c'est peut-être plus simple. Donc, si je développe ce carré, j'ai moins J2 sur 2T2 NZ, et puis moins J2 sur 2T2, somme sur I voisin de J, somme sur alpha différent de bêta, de Si alpha, Si bêta, Sj alpha, Sj bêta, puis il y a le terme que je viens de rajouter, moins epsilon, somme sur I, somme sur alpha différent de bêta, de Si alpha, Si bêta. Donc là, j'ai juste effectué le carré, hein, ce qui n'est pas développé le carré. Bon, et vous voyez que ce qui se passe au site I est couplé à ce qui se passe au site J. Donc ce que je veux faire, c'est juste me concentrer sur le speed I et remplacer tout le reste par des moyennes. Donc ce n'est pas la vérité, hein, c'est une approximation. Donc j'essaye de faire ça. Donc je vais, au lieu de regarder ce problème de départ, ce que je vais dire, c'est que je vais dire que Sj alpha, tous les Sj bêta, ça va valoir, mais leur valeur moyenne, ça va être un certain Q alpha bêta. D'accord ? Et puis maintenant, je me retrouve avec un problème où il y a un seul site, mais encore une fois, c'est un problème compliqué, avec une énergie E tilde qui va valoir moins J2. Donc c'est juste la partie de l'énergie qui dépend du site I, Si alpha, Si bêta, Q alpha bêta, moins epsilon, somme sur alpha différente de bêta, de Si alpha, Si bêta. Donc maintenant, hein, la seule chose que j'ai faite là-dedans, bon, la partie constante de l'énergie n'a pas aucune importance, la seule chose que j'ai fait là-dedans, c'est que j'ai gardé la dépendance dans le site I, et tout le reste, j'ai remplacé par la moyenne. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une théorie de champ moyen. Et maintenant, ce qu'ont fait Edward Sanderson, qui sont tous les deux très célèbres, c'est d'essayer de comprendre, de résoudre cette théorie de champ moyen des verres de spin, où maintenant, j'ai plus que un spin, n spin sur le site I. Et ça, en soi, c'est encore un problème compliqué parce que, pour l'instant, j'ai supposé que les Q alpha bêta dépendent de l'indice alpha et bêta. Donc, ils ont, à cause de cette complication, et cette complication, encore une fois, c'est la boîte de Pandore, c'est que Edward Sanderson, ils ont supposé que Q alpha bêta
égale Q. C'est-à-dire
ne dépend pas du tout, ne dépend pas du tout de alpha et bêta. C'est le même pour toutes les paires de alpha et bêta. Alors, quand on fait ça, ce problème peut se résoudre. Je vais écrire deux formules qui vous permettent de voir qu'il peut se résoudre. Et non seulement il peut se résoudre, mais il peut se résoudre avec une dépendance en n qui est suffisamment simple pour qu'on puisse prendre après coup la limite n tend vers 0. Si on suppose ça. Alors pourquoi ça peut se résoudre? Je vais écrire les formules. Mais en fait, c'est assez élémentaire pourquoi ça peut se résoudre. Si vous, toute la difficulté provient. Enfin, si tous les Q alpha bêta sont égaux, ceci c'est moins J2 sur 2T2 plus epsilon, ou moins epsilon, facteur de. Moins J de Q, hein, si tous les Q alpha sont égaux, facteur de somme sur alpha différente de bêta de SI alpha SI bêta. Alors vous voyez que les spins, ils valent plus 1 ou moins 1, donc cette somme-là, elle prend très peu de valeurs possibles. Elle prend N ou N sur 2 valeurs possibles, enfin je ne sais plus combien il y en a, mais en fait, c'est un nombre très petit et ce problème-là peut se résoudre facilement. Il y a moins. Donc ce problème peut se résoudre facilement. Je vais écrire la solution, mais c'est assez élémentaire de le résoudre. Mais on a fait cette hypothèse Qalpha égale Q, Qalpha bêta égale Q, qui s'appelle la symétrie des répliques. La symétrie des répliques, et cette approximation de champ moyen, elle a conduit à certaines propriétés qui ne sont pas acceptables, comme des entropies négatives ou des choses comme ça. Et donc, en fait, il a fallu reprendre ce calcul, ce type de calcul, et être capable de le généraliser au cas où les Q alpha bêta n'étaient pas égaux. Et ça, c'est l'œuvre de Parisi à la fin des années 70 et qui a amené à tous ces développements sur la théorie des verres de spin. Donc, ce que je vais, juste pour terminer... Je vois que j'ai été plus long que ce que je pensais. Pour terminer, je vais essayer de vous dire, mais vous écrire, mais c'est relativement facile, comment on trouve l'équation pour Q, l'équation pour Q qui va être l'analogue de l'équation qu'on avait tout à l'heure pour l'aimantation. Donc, si tous les spins sont égaux, cet Hamiltonien-là, ce problème-là, il y a n spin sur un seul site, il peut se résoudre complètement, facilement. C'est presque un exercice qu'on peut poser. Parce que tous les couplages sont les mêmes, donc cette somme ne peut prendre qu'un tout petit nombre de valeurs. La valeur maximum, ce sera nn-1, et puis la valeur, c'est des quelques valeurs entières entre nn-1 et moins n. Bon, je ne sais plus quelle est la valeur minimale, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais enfin, il y a un nombre assez faible de valeurs. Et donc, si vous essayez de le résoudre, vous trouvez que SI alpha, SI bêta est donné par, alors bon, désolé pour la formule, c'est une façon de l'écrire, intégrale dy et puissance moins y2 sur 4, cosinus hyperbolique, de, bon, je vais écrire BY, puissance N, et en haut, c'est intégrale dy, et puissance moins y2 sur 4, cosinus hyperbolique de BY, puissance N, le tout facteur de y sur 2, tangente hyperbolique de BY sur B, moins 1. Où B, c'est cette chose-là. Donc ça, c'est l'analogue dans ce problème-là. Vous voyez que B dépend de Q et que c'est l'analogue de l'équation qui donnait l'aimantation tout à l'heure, c'est que Q est égal à cette formule. Donc quand on fait cette méthode des répliques, eh bien, ce qu'on a gagné, c'est qu'on a une dépendance en n qui est explicite, donc on va pouvoir faire la limite n tend vers 0. On a bien sûr négligé, on a fait une approximation de champ moyen, mais on a fait en plus une hypothèse qui est la symétrie des répliques qui est ici. Et donc, si on fait ces deux approximations successives, le champ moyen plus la symétrie des répliques, on arrive à une équation pour Q. Et quand on change la température, hein, donc B, c'est ce coefficient qui est là, quand on change la température et qu'on regarde ce qui se passe en fonction de epsilon, eh bien on arrive à quelque chose qui est comme ça. C'est que Q en fonction de epsilon, quand epsilon tend vers 0 au-dessous d'une certaine température, Q ne tend pas vers 0. Et puis au-dessous d'une certaine température, Q tend vers 0. Au-dessus d'une certaine température, Q tend vers 0. Et donc ça, c'est une phase où le système se déplace facilement. Et puis là, il est bloqué dans des vallées. On avait mis ce epsilon pour maintenir les deux configurations proches l'une de l'autre. Quand on lâche le epsilon, eh bien, elles restent encore proches l'une de l'autre. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle, cette valeur, c'est ce qu'on appelle le paramètre d'ordre d'Edward Sanderson. Alors, la façon dont Edward Sanderson avait... Là, je l'ai présenté dans le cadre du champ moyen. La façon dont ils avaient pensé ce paramètre d'ordre, c'est d'imaginer que alpha bêta, c'est la corrélation entre deux répliques, c'est d'imaginer que c'est le même système à des temps très différents. Et donc, s'il y a des vallées qui sont très creusées, ben, si le système est piégé dans une vallée, ben, il reste piégé dans cette vallée après. Bon, j'ai essayé de vous présenter ce calcul juste pour illustrer un peu cette méthode des répliques. Donc on est parti, hein, je termine maintenant, on est parti de cette énergie pour z puissance n, où on n'a fait aucune approximation, on a fait l'approximation de champ moyen. Une fois qu'on a fait l'approximation de champ moyen, on se rend compte qu'il y a cette difficulté, qu'il y a une dépendance en Q alpha bêta, que Parisi a réussi à surmonter, mais qui est une histoire plus compliquée. Ce qu'avait fait Edward Sanderson en 1974, c'est de supposer qu'ils étaient tous les mêmes. C'est la symétrie, ce qu'on appelle la symétrie des répliques. Et à ce moment-là, ils arrivent à une formule qui est là, avec un n qui dépend continuellement, explicitement, une dépendance explicite en n. Et c'est ça qui permet de prendre la limite n tend vers 0 à la fin. Bon, je suis désolé d'avoir été plus long que prévu. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.